Et c'est une science fondée sur des enquêtes de terrain, sur les archives historiques, sur les fouilles géologiques, l'ethnologie donc qui étudie les sociétés et les cultures. Le 11 et 12 mars prochain, le musée du Quai Branly à Paris propose un week-end gratuit pour explorer le 21e siècle avec donc cette promesse « L'ethnologie va vous surprendre ». Et c'est l'occasion de consacrer le dossier de la tête au carré à cette science qui embrasse des sujets et des thèmes de recherche d'une très grande diversité, de l'étude du chamanisme au disque labial des femmes murcies d'Éthiopie, aperçu dans un instant des objets d'étude de l'ethnologie avec mes invités et vos messages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
Pour la première fois, des chercheurs ont identifié un groupe de 208 minéraux directement liés aux activités humaines et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Oui, 208 sur 5200 connus aujourd'hui, ce qui porte à 4% la part des minéraux sur Terre issus des activités des hommes. Une pierre de plus à poser sur le chantier de l'Anthropocène. On pose la question au minéralogiste François Farge.
Et Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'ethnologie va donc nous surprendre. Troisième édition de ce rendez-vous ce week-end au musée du Quai Branly. On en parlera dans un instant avec mes invités que je salue. Les ethnologues Anne-Christine Taylor, Roberta Maillon et Jean-Baptiste Exé. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Anne-Christine Taylor, vous avez donc décidé de montrer la diversité de cette discipline, l'ethnologie. C'est ça un petit peu le but de ces deux journées ?
Oui, c'est à la fois de rendre hommage à une discipline qui est tout de même à l'origine des collections du musée du Quai Branly, il faut bien dire, et par ailleurs qui aujourd'hui effectivement est d'une infinie diversité dans ses objets, plus que d'ailleurs dans ses approches.
Oui, on va justement donner quelques illustrations avec nos invités dans un instant. Roberta Maillon par exemple, votre champ d'étude c'est entre autres le chamanisme. Est-ce qu'on trouve des chamans partout dans le monde, tiens?
Eh bien, aujourd'hui, oui, oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas, bien sûr. C'est un terme que l'on emploie à propos d'un tas de choses qui n'ont pas grand rapport avec ce pourquoi le terme a existé au départ. Oui. C'est un terme qui vient de la Sibérie à la fin du XVIIe siècle. Et donc...
On en parlera justement avec vous, hein. C'est votre pratique justement autour de ces chamans des peuples de Sibérie. Et puis Jean-Baptiste Exet, avec vous on va s'intéresser à votre travail d'ethnologue autour du labret, c'est ce plateau labial des femmes murcies en Éthiopie. C'est un ornement très important pour ces femmes, c'est un marqueur d'identité.
Un ornement très important pour ces femmes et qui a fait l'objet de beaucoup d'interprétations, disons de sens commun et récemment dans des photographies, un peu comme l'emblème... Oui. De la sauvagerie de certaines personnes ou de l'exotisme. Et évidemment, l'anthropologie a une possibilité interprétative, une alternative à ça.
Et vous avez justement fait ce travail que vous allez nous livrer donc dans quelques minutes avec les messages et les questions des auditeurs, franceinter.fr.
La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et on apprenait très récemment que 4% des minéraux découverts sur Terre ont pour origine les activités humaines. Ces 208 nouveaux minéraux ont été formés en moins de 250 ans. C'est un clin d'œil à l'échelle des temps géologiques qui pousse les minéralogistes américains à l'origine de cette étude à parler de minéralogie de l'Anthropocène. François Farge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous pour commenter cette étude. Vous êtes professeur de minéralogie au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et puis dans ce studio, nous sommes également, comme tous les lundis, avec vous, Hervé Kempf, notre partenaire de reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
La minéralogie, Hervé, encore un domaine de notre planète où l'homme laisse sa trace visiblement. Hein.
Oui, et il laisse tellement sa trace, l'homme et d'ailleurs la femme aussi, que en 2000, un grand chimiste, Paul Crutzen, c'était un des découvreurs du trou dans la couche d'ozone, a dit dans la communauté scientifique, la puissance de l'activité humaine sur l'ensemble de la biosphère est telle que l'humanité serait devenue, selon lui, une force géologique et il faut donner un nouveau nom à cette période géologique, le nom d'Anthropocène, qui succéderait donc à l'Holocène dans laquelle nous sommes plongés depuis 11 000 ans. Il y a un débat depuis très vif depuis 2000. Mmh. Est-ce que vraiment on peut parler d'un anthropocène, d'une nouvelle ère géologique? Ça a encore été un débat lors de la commission, le congrès international de géologie en été dernier au Cap en Afrique du Sud. Et là, voilà une nouvelle pièce qui est versée au dossier avec cette minéralogie de l'anthropocène par Monsieur Hazen et ses collègues dans l'American Mineralogist et qui dit on a formé énormément de minéraux, soit indirectement directement par des activités humaines, dans les mines notamment, et aussi des minéraux formés intentionnellement plus que jamais depuis 2 milliards d'années. Et certains, voilà ce qui conduit donc à parler d'un anthropocène, et François Farge va nous éclairer davantage.
Parce que ça nous a beaucoup intrigué, Axel.
Et oui, François Farge, si on compte 208 en 250 ans, si on compare aux 5200 formés à peu près en 4 milliards d'années, on peut dire au moins que l'homme est efficace.
Et on parle de minéraux, en l'occurrence. Hein.
Oui, effectivement, ça représente un nombre très important d'espèces minérales et très certainement, il y en a encore plein d'autres centaines à découvrir parce que la majorité de ces phases, et je crois que c'est la chose la plus importante à dire, sont des phases microscopiques. Donc, elles représentent un nombre important d'espèces, mais par contre, en volume, c'est tout petit.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces nouveaux minéraux ?
Alors, il y en a un qui est peut-être un peu moins petit, qu'on connaît bien en France, et notamment en Alsace, c'est la ferrarisite et la fluquite. Alors, je suis désolé pour ces noms un peu barbares. Mais donc, ce sont ce qu'on appelle des arséniates de calcium, entre autres, qu'on a trouvés dans des anciennes mines d'arsenic de Sainte-Marie-aux-Mines, qui ont été exploitées très intensivement à la fin du 19e et au 20e. Et effectivement, ces composés semblent s'être formés grâce à l'exploitation ou à cause de l'exploitation de ces mines d'arsenic, et l'arsenic étant utilisé comme étant un fongicide, un insecticide, la morora notamment.
C'est vraiment les mines l'endroit où se forment le plus de ces nouveaux minéraux ?
Oui, alors beaucoup les mines et puis les industries qui sont tout à fait liées aux mines. Moi, personnellement, j'ai trouvé un chlorure de mercure avec les collègues américains dans une ancienne mine de mercure de Californie. Et elle était liée, cette fois-ci, c'était au calcina qui était au niveau de l'usine, qui était juste à côté de la mine. C'est-à-dire que pour extraire le mercure, on calcinait donc le minerai pour en extraire le liquide, le mercure métal. Et donc, il y avait plein de minéraux qui se sont formés dans les rejets de cette mini-industrie qui était sur la mine, et notamment ces chlorures de mercure.
Ouais, François Farge, la vitesse de formation de ces minéraux, est-ce que ça vous étonne en tant que minéralogiste ?
Non, parce que en fin de compte, on voit que, par exemple, je parlais tout à l'heure de ces arséniates de calcium qu'on trouve en Alsace. En fin de compte, on les trouve pas qu'en Alsace, on les a trouvés pour la première fois là-bas. Mais depuis, la ferrarisite, par exemple, on a trouvé dans 8 gisements au monde. Donc ça veut dire que quand même, au niveau de la nature, il y a une constance à vouloir fabriquer ces minéraux. Et je pense que dans la majorité des mines qui sont exploitées de nos jours, beaucoup de ces gisements-là affleuraient à la surface. Et avant que l'homme ne les exploite, très certainement, le contact naturel du minerai avec l'oxygène a vraisemblablement déjà créé ces espèces. Donc elles sont nouvelles par rapport à notre connaissance actuelle, mais très très certainement, bon on n'en a pas la preuve, mais très certainement, ces espèces existaient déjà avant. Et en fin de compte, dans les études d'Azen, qui travaille, c'est un immense collègue, qui travaille depuis des années sur l'évolution du monde minéral, le grand avantage, c'est qu'il donne une version très évolutive et pas statique du tout du monde minéral. Mais on se rend compte qu'en fin de compte, la géodiversité est bien plus complexe que ce qu'on peut l'imaginer. Par exemple, il y a 10 ans, Azen était plutôt à dire que certains minéraux s'étaient formés très récemment suite à l'apparition de la vie sur Terre. Mais en fin de compte, depuis, on a retrouvé certains de ces minéraux, des oxydes de fer, des argiles notamment. On les a retrouvés dans des météorites qui sont bien plus vieilles que l'apparition de la vie sur Terre. Donc je crois que c'est une chose un peu complexe qui est très difficile à appréhender, et on est malheureusement victime de notre regard actuel très anthropocentré. Mais certainement, si on trouve un certain nombre de ces minéraux naturels à l'heure actuelle dans certaines de ces mines, c'est qu'il y a quelque part un équilibre thermodynamique, une logique naturelle qui font que ces minéraux se forment, je dirais pas naturellement, mais quasi naturellement.
Alors vous avez un point de vue assez sceptique par rapport à ce que dit Azen, qui dit sans beaucoup d'ambiguïté que on peut parler d'une minéralogie de l'anthropocène. Vous n'êtes pas vraiment d'accord avec ce point de vue, si on le comprend bien.
Alors ce qu'il y a, c'est que effectivement, c'est l'activité humaine a certainement amplifié, et je pense que c'est cela que voit Azen très justement et très judicieusement, parce qu'il est très très doué, Azen, pour mettre le point sur ces évolutions très critiques. Par contre, je suis pas sûr que ça soit quelque chose chose de si nouveau que ça. Parce que simplement la thermodynamique nous enseigne que ces phases doivent se former à partir du moment où ces minerais, comme on dit primaires, ces minerais profonds d'arsenic, mais pas seulement d'arsenic, de plein d'autres choses, arrivent naturellement au contact de l'oxygène, de la vie via l'érosion. Et la preuve en est que, par exemple, les deux minéraux dont je parlais, d'Alsace, on les trouve dans plein de gisements dans le monde depuis leur découverte dans les années 1980. Et cela montre qu'il y a une tendance de la nature à les fabriquer.
Si on se place dans un milliard d'années dans le futur, est-ce qu'on pourra dire que l'homme a laissé une trace dans la minéralogie? Est-ce qu'on verra une trace de l'homme?
Alors ça, c'est bien possible, mais c'est quasiment, je dirais, un autre problème. Mais par contre, il est tout à fait lié à la définition de l'anthropocène, qui est une notion qui est en train d'être validée en ce moment, et notamment depuis l'année dernière, depuis un congrès géologique international, où la question est plutôt de savoir quand démarre l'anthropocène. Et alors, certaines personnes veulent trouver un événement typiquement humain qui affecte la planète entière, et certains pensent à l'explosion de la première bombe nucléaire. La bombe nucléaire Trinity dans les années 50 dans le désert d'Arizona, de Californie je pense, qui a effectivement contaminé entre guillemets toute l'atmosphère avec du tritium. Et ce tritium est là et effectivement 100% anthropoformé, en tout cas, mais il est à l'état de gaz et effectivement, mais on ne parle pas de minéral dans ce cas-là. Oui. On parle simplement d'un gaz.
Bon, ça discute beaucoup apparemment chez les géologues pour justement essayer de voir si on entame une nouvelle ère géologique, parce que tout le monde n'est pas d'accord encore sur la question. On l'a vu d'ailleurs en Afrique du Sud à l'occasion des discussions cette année. En tout cas, François Farge, merci beaucoup. Je signale que vous avez publié en 2015 chez Duno la nouvelle édition de votre ouvrage à la découverte des minéraux et des pierres précieuses, donc il est encore évidemment disponible aujourd'hui. Merci à vous. Reporter.net, bien sûr, Hervé, pour retrouver ces informations. Et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, oubliez l'image de la forêt vierge amazonienne. Cette immense étendue de nature est très loin d'être sauvage et immaculée. Une équipe internationale vient en effet de montrer que la plupart des arbres qui poussent aujourd'hui en forêt amazonienne sont le résultat de son ancienne domestication. Pendant des centaines et des centaines d'années, bien avant l'arrivée des Européens, les peuples vivants dans la forêt ont planté des cacaotiers, des noyers, des palmiers açaï pour manger des fruits. Les auteurs montrent que les 85 espèces d'arbres et de plantes connues pour avoir été domestiquées sont aujourd'hui en moyenne 5 fois plus présentes dans l'ensemble de la forêt que les autres types de flore. La lente agonie génétique du mammouth laineux, une équipe de généticiens de l'université de Berkeley montre que l'extinction du mammouth laineux sur des îles de l'Arctique il y a 4000 ans s'est accompagnée également d'une lente perte de diversité génétique. En comparant les génomes de plusieurs mammouths et à différentes époques, les chercheurs montrent que l'ADN de ces animaux en voie d'extinction montrait l'existence de malformations génétiques, signe que l'espèce était en train de péricliter. Les auteurs rappellent que l'étude de l'extinction des mammouths devrait servir de modèle pour tenter de préserver la force du génome des espèces en voie de disparition aujourd'hui. Et puis enfin, deux intelligences artificielles en duel pour battre l'homme au poker. En l'espace d'un mois, deux équipes d'informaticiens, l'une à Prague et l'autre en Pennsylvanie, ont annoncé que leur machine avait réussi à battre en duel des joueurs professionnels de poker dans la variante du Texas Hold'em. Ce jeu parmi les plus complexes à apprendre pour une machine est en effet le nouveau graal des algorithmes de la théorie des jeux, car même si les probabilités sont importantes, elles n'impactent pas le jeu autant que le bluff ou la psychologie. Prochaine étape pour ces deux équipes, un affrontement machine contre machine qui devrait être programmé très bientôt. Allez, l'ethnologie, c'est le thème de notre dossier cet après-midi.
Broken heart. Here you are standing by
Avec des Excitements à l'instant sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Et l'ethnologie va vous surprendre, c'est en tous les cas ce qu'on nous promet pour ce week-end au musée du Quai Branly avec ses deux journées portes ouvertes, programmation donc complète autour de cette discipline et puis pour en parler justement et vous donner aussi un aperçu des thèmes qui seront abordés, je suis en compagnie des ethnologues Anne-Christine Taylor, Roberta Maillon et Jean-Baptiste Exay et vous nous rejoignez bien sûr avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Anne-Christine Taylor, vous êtes spécialiste de la population indigène de l'Amazonie, vous avez dirigé pendant 8 ans le département de la recherche au musée du Quai Branly. C'est vous qui avez lancé cet événement, l'ethnologie va vous surprendre, avec Stéphane Martin, le directeur du musée. Donc on le disait tout à l'heure, l'idée c'est de donner un éclairage aussi hein, sur la diversité, la variété des sujets, avec donc différentes formes que vous avez mises en place.
Oui, l'idée c'était de donner une idée à la fois de la diversité des objets que maintenant l'ethnologie prend à bras-le-corps,
oui.
Et d'autre part la diversité des formes qu'elle trouve pour transmettre le type de savoir qu'elle produit.
C'est-à-dire, vous pensez à quoi alors en particulier sur les formes?
Je pense évidemment à des choses maintenant devenues relativement classiques comme le cinéma, la photographie de façon générale, mais aussi maintenant avec, disons, ces zones de friction, de frottement productif avec beaucoup de pratiques artistiques qui vont dans les deux sens. L'ethnologie s'en sert éventuellement pour trouver des nouvelles formes d'expression. Mais aussi les artistes trouvent à se nourrir dans la méthode et dans les savoirs que produit l'ethnologie.
L'ethnologie, c'est quoi? C'est tout simplement l'étude de la société et des cultures au sens très large?
Oui, sans aucun doute. C'est essentiellement l'étude, l'exploration des formes et des moyens que les humains mettent en œuvre pour se composer des mondes vivables.
Et vous, Jean-Baptiste Exay, vous êtes ethnologue ou anthropologue? Alors, quel terme, au fond, vous va le mieux?
Ah, ça c'est une distinction qui a été définie en France par Lévi-Strauss, mais le monde anglophone le fait pas. Donc, par homogénéité, on commence à tous utiliser de plus en plus anthropologue, même si ethnologue insiste plutôt sur une spécialisation régionale.
Ouais,
donc l'un ou l'autre, ça me va, moi.
Roberta Maillon, ce sont bien les hommes qui vous intéressent, vous aussi, au travers du chamanisme, par exemple?
Bien sûr, à la fois collectivement et individuellement, mais enfin, que ça soit qu'on s'appelle ethnologue ou anthropologue, dans tous les cas, je pense qu'on a à peu près le même genre de pratique fondée sur l'observation participante autant que possible, mais c'est pas toujours le cas. Et la pratique des langues qu'on étudie maintenant, il y a aussi une recherche qui se fait dans nos propres sociétés, et les deux sont complémentaires, bien sûr, et ça interagit.
Ouais. Claude Lévi-Strauss qui parlait, lui, d'ethnographie, la preuve, en 1956.
Sous le nom d'ethnographie, il y a en vérité des préoccupations et des spéculations qui sont très anciennes. Il me semble qu'à partir du moment où les hommes ont commencé par réfléchir sur eux-mêmes en invoquant l'expérience de civilisations qui n'étaient pas les leurs, c'est-à-dire dans notre formation classique elle-même, par cette espèce de fécondation de la réflexion au moyen de l'exemple des anciens Grecs et des anciens Romains, en un sens, on faisait de l'ethnographie. Et puis, ensuite, il s'est produit que les grands voyages de découverte ont rendu, en un sens, la tâche plus facile, parce qu'ils nous révélaient des sociétés qui étaient d'une part très petites, et de l'autre, extraordinairement différentes de nous. Et comme ces sociétés étaient au surplus compromises dans leur existence par le fait même de la colonisation et le développement des grands voyages, il était donc urgent pour l'ethnographe de s'attaquer à l'étude de ces sociétés.
Anne-Christine Taylor, on n'emploie plus ce terme d'ethnographe aujourd'hui.
Si, bien
toujours,
sûr, on continue à l'utiliser.
Alors dans quel sens exactement?
Pour désigner peut-être la phase de la discipline qui est le plus centrée sur la collecte, le travail ethnographique proprement dit, c'est-à-dire le travail de recueil des données que ensuite on va analyser d'un point de vue ethnologique, c'est-à-dire de comparaison régionale, puis anthropologique à un niveau encore plus abstrait.
Ouais, 1956, Claude Lévi-Strauss, Jean-Baptiste Exet. Est-ce que finalement vous vous retrouvez bien dans ce qu'il décrit de votre discipline ?
Je m'y retrouve encore assez bien dans la mesure où l'anthropologie, l'ethnologie, peu importe, c'est une science à échelle humaine. Ça veut dire qu'on n'a pas d'outillage, on n'a pas de télescope, de microscope. On a nos compétences habituelles, interactionnelles, pour aller à la rencontre de personnes, essayer de décrire leur vie, leur quotidien et le comprendre. Et ça, c'est quand même assez constant dans le temps. On risque pas d'avoir demain un nouvel équipement qui nous permettra de comprendre mieux les relations humaines et sociales que celles que l'on vit au quotidien.
C'est ça, et d'aller mouiller sa chemise sur le terrain directement. Robert Tamagnon, c'est absolument essentiel dans votre discipline que d'aller rencontrer évidemment les peuples auxquels on s'intéresse.
Oui, bien entendu, c'est absolument indispensable de parler leur langue aussi. Et je pense qu'à long terme, c'est l'ethnographie qui reste, c'est-à-dire la description, le matériau tel qu'il a été. Qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils disent qu'ils doivent faire et qu'ils font, qui n'est pas toujours la même chose, d'ailleurs. Et alors que les théories, c'est certain, elles vous amène à creuser vos questions, à voir peut-être des choses différentes, et les nouvelles technologies également. Quand on filme un rituel, on ne voit pas la même chose que quand on l'observe directement. Mais disons, les matériaux, c'est ce qui reste. 50 ans plus tard, c'est toujours valide.
Oui. Comment on choisit un terrain d'étude, justement, en ce qui vous concerne pour les chamans, Robert Tamagnon,
Non, c'est devenu le chamanisme, mais très tard. Quand j'ai voulu partir en Mongolie, je vous dirais que c'était à l'époque un pays communiste, le premier satellite de l'URSS, et tous mes professeurs m'ont évidemment découragé. Du coup, ça a été comme ça, agit comme de la provocation. J'ai eu l'esprit de contradiction et j'ai voulu partir.
Voilà. Vous avez choisi ce terrain pour cette raison-là, un petit peu?
Je ne sais pas, sans doute ça a dû jouer, mais il me disait, vous ne pourrez jamais faire d'observation participante, ce qui s'est véritablement avéré, parce que j'étais finalement une occidentale. Qu'est-ce qu'une occidentale faisait dans un pays comme ça, dans la fin des années 60 ou les années 70? J'étais forcément...
L'observation participante, c'est quoi? C'est l'immersion vraiment auprès des sociétés qu'on souhaite étudier?
Oui, c'est l'immersion et puis participer aux activités des gens. Alors, il y a des activités qui sont très fastidieuses, disons, comme aller traire les vaches, que je n'ai jamais fait, d'ailleurs. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent être plus délicates pour certains, c'est-à-dire participer à des rituels. Et moi, à l'époque communiste, il n'y avait pas d'activité religieuse, pas d'activité rituelle. Donc, la question ne s'est pas véritablement posée. Et en plus, j'étais toujours surveillée à droite, à gauche. La question ne s'est pas posée pour moi et ce n'était pas un terrain classique.
Anne-Christine Taylor, l'Amazonie par exemple, autre terrain d'étude qui a été le vôtre également, la longueur des séjours aussi, pour l'ethnologue, c'est absolument fondamental, cette immersion longue justement.
Oui, c'est indispensable parce qu'en réalité le travail ethnographique c'est aussi une sorte de bain corrosif qui est destiné à défaire progressivement, à dénaturaliser vos habitudes à la fois mentales et physiques. Et ça, ça demande du temps. Pour que justement on prenne conscience justement de la des différences, de l'infinité des différences dans les manières d'agir des corps et des esprits. Ouais. On est obligé de passer par cette phase de
dénaturalisation. Pour être au plus près du sujet que l'on étudie justement, tout en gardant quand même une distance, j'imagine, parce que c'est ça au fond, c'est cette balance entre les deux qui est fondamentale.
Bien entendu. Ouais. On fait d'une certaine façon, on doit se mettre un peu dans la position de l'idiot du village. Pour pouvoir vraiment être un bon ethnographe. Et ça, ça demande effectivement du temps.
Alors là, c'est intéressant, les deux exemples justement avec Roberta Amaillon et Jean-Baptiste Exé, parce qu'on a deux générations aussi d'ethnologues. Est-ce que finalement les objets d'études ont beaucoup changé? Alors depuis Lévi-Strauss jusqu'à maintenant les plus jeunes comme Jean-Baptiste Exé, est-ce que la façon de faire le travail et les sujets observés sont très différents?
Les sujets observés sont pas mal changés. Plus, je dirais que les méthodes. Au fond, les méthodes restent en gros les mêmes. Lévi-Strauss disait justement que l'ethnologie c'était un mode de connaissance plutôt qu'un champ disciplinaire de à part entière. Donc ça reste constant. En revanche, ce qui a beaucoup changé effectivement, c'est l'investissement par l'ethnologie de domaines de savoir qui étaient tout à fait ignorés de l'ethnologie.
Absolument.
Il y a encore 30 ou 40 ans.
Ouais. Est-ce que l'ethnologie, d'une certaine manière, Jean-Baptiste Exé, s'est aussi rapproché des préoccupations pour les Français, par exemple? Est-ce qu'on part un petit peu moins loin? Est-ce qu'il y a moins d'exotisme tel qu'on peut l'imaginer aussi, comme à une époque, comme à l'époque en tout cas de celle de Claude Lévi-Strauss? Les sujets qui sont étudiés aujourd'hui sont plus urbains aussi ou pas?
Oui, de fait, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui vit en ville, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est dès qu'il y a des personnes qui font des choses, je veux dire, c'est un sujet possible de l'anthropologie. C'est vrai que dans un premier temps, on a suivi les anthropologues. Ben, on a suivi d'abord les colons, puis les missionnaires, et les anthropologues arrivés à la suite. Donc, la discipline s'est concentrée au début sur les objets dits exotiques, disons du lointain, parce qu'on était confronté à une sorte de différence culturelle et pratique. Et c'est ça qui a permis de développer des outils de pensée, notamment qui permettaient de remettre en cause nos catégories de pensée. Et du coup, ça devenait un peu plus facile de prendre de la distance avec notre société et les objets de recherche, les pratiques qui sont hébergées par le même monde duquel on vient. Sans ce détour par un terrain lointain, c'est beaucoup plus difficile de perdre ses habitudes, c'est exactement ce que disait donc Anne-Christine, on va loin et longtemps, d'abord pour perdre ses attachements et en reconstruire d'autres. Ce mouvement, si on reste dans sa société de référence, il n'est pas effectué, du coup, c'est beaucoup plus dur à faire. Donc, il a fallu du temps pour le revenir.
Dans votre cas, lorsque vous étudiez la jungle de Calais, par exemple, vous n'allez pas loin, vous allez au contraire très près de chez nous, et pourtant vous étudiez une société qui n'est pas la nôtre.
Oui, donc je ne suis pas allé loin, mais pour m'intéresser à des gens qui, eux, venaient de très loin. Donc on retrouvait quand même une partie du travail était confrontée à une idée du lointain. Mais c'est aussi ça, en fait. Il s'agit aussi, c'est une situation qu'on pense spontanément, les anthropologues comme les autres, on n'est pas d'emblée avec beaucoup plus de distance, mais qu'on pense spontanément avec nos outils. Donc on a des réseaux administratifs, on a de la politique, on a des manières de penser le territoire. Et si on fait l'analyse d'une situation comme ça, qui nous est proche, avec les outils qui sont eux-mêmes le résultat de ce qu'on veut analyser, il y a quelque chose de récursif, on s'en sort pas trop. D'où le détour, en fait, qui peut être donc intéressant, le détour que propose l'anthropologie. Ouais. Pour reposer des questions, c'est quoi un commandement administratif, c'est quoi une gestion de territoire à la française, c'est quoi des ordres, c'est quoi des forces de l'ordre, c'est quoi avoir la légitimité de la violence publique, ce sont des questions que par le détour anthropologique, tout simplement par des sociétés qui n'ont pas ces spécialisations, qui n'ont pas ces personnes qui font les mêmes choses, nous permet.
Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce mot d'exotisme, Roberta Amaillon, justement, et cette idée qu'on peut se faire, peut-être totalement caricaturale d'ailleurs, hein, de l'ethnologie?
Écoutez, je pense qu'à la fois elle est caricaturale et elle est vraie. On atterrit dans un milieu autre, et ce milieu autre vous oblige à réfléchir sur vous-même. Et quand on revient, on se regarde comme un autre. On regarde la population à laquelle on appartient comme une autre. Donc le détour par l'exotisme est tout à fait important. Et je pense qu'il y a aussi dans l'opinion publique une façon exotisante de regarder les conclusions de l'anthropologie.
C'est-à-dire ?
Bah, écoutez, je m'excuse parce que je vais parler de chamanisme, mais je dirais que la façon dont on utilise ce mot est véritablement une façon tout à fait intéressante de récupérer l'exotisme pour qualifier autre chose chez nous, en fait.
Bon, ben, on va en discuter alors avec vous dans un instant, puisque c'est votre objet d'étude, justement, le chamanisme et les terres de Sibérie en particulier, à l'occasion donc de ces deux journées de week-end au musée du Quai Branly pour mieux connaître l'ethnologie. Discussion à bâton rompu pour parler d'ethnologie avec mes invités alors que nous écoutions Claude Pelgag avec les fluorofluides fleurs à l'instant. Anne-Christine Taylor, Roberte Amaillon et Jean-Baptiste Exet sont donc mes invités. Roberte Amaillon, vous êtes donc la grande spécialiste en France du chamanisme originaire de Sibérie. Vous serez en conférence magistrale dimanche à 11h30 justement sur les chamanismes. D'où vient ce mot d'abord au départ?
Alors, il vient d'une petite population qui a vécu très longtemps de l'élevage et de la chasse aux rennes, et pas seulement aux rennes d'ailleurs, et qui s'est trouvé vraiment, par hasard, donner au monde un mot dont il fait une utilisation extrêmement variée de nos jours. Ça a mis 3 siècles à peu près à se produire, et ouais. Le terme de chamanisme, c'est vraiment un concept occidental qui a été fabriqué sur le terme de chaman, qui est un terme donc qui appartient à cette langue tungouse et qui veut simplement désigner un spécialiste rituel. Et bon, on a d'abord vu uniquement ce personnage à travers les yeux des missionnaires comme un rival du pop, ouais. Parce que finalement, il faisait des tas de rituels qui étaient l'inverse de ce que le pop proposait. Donc, on disait, c'est une religion du diable. Alors, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ça a été un personnage religieux qui servait le diable. Et puis, il y a eu les Lumières à ce moment-là. On s'est dit, c'est quand même bizarre ce type-là, et on l'a traité d'imposteur et de charlatan. Ouais. Et les grands voyageurs allemands, surtout, qui allaient en Sibérie, ont cherché à démasquer les chamans, montre-nous tes trucs, etc. Du coup, ça a été le point de départ de l'entrée dans la clandestinité des populations chamanistes en Sibérie.
Ouais, ils ont été obligés de se cacher pour pratiquer.
Ils se sont déjà cachés parce qu'ils voulaient éviter d'être dépistés par les voyageurs, qui les dénonçaient après à l'administration, etc. Et puis ça a entraîné la perception des impôts et des tas d'autres choses. Ouais. Donc, ils ont commencé à se cacher, ils sont allés faire leur rituel en forêt. Et puis alors, après est arrivée une nouvelle vague d'interprétation romantique qui a considéré que c'était un magicien finalement qui se défendait face à la nature hostile et qu'il y avait quelque chose de tout à fait noble dans sa conduite. Phase suivante, la fin du 19e siècle, la colonisation progresse partout et entraîne chez les populations autochtones une multiplication des rituels un peu pour se rassurer. Enfin, c'est des rituels où ils se retrouvaient entre eux. Et pour que ça passe auprès des autorités coloniales, et ils ont dit que c'était thérapeutique.
Ah oui.
Alors on les a laissés faire d'abord parce qu'il n'y avait pas assez de médecins partout. Et donc c'est ça qui a fait que jusqu'au milieu du XXe siècle, ça a été interprété comme un phénomène à la fois psychopathologique et thérapeutique de la psychopathologie. Jusqu'à ce qu'Eliade arrive, voulant réhabiliter le chamanisme, et disent que finalement c'était l'expérience religieuse à l'état brut. Alors c'est venu au moment de la décolonisation, du déclin après-guerre, disons, dans les années 60, au moment de la décolonisation, du déclin des grandes religions, et du coup, c'est devenu quelque chose que l'Occident a essayé de se réapproprier.
Alors c'est ça, parce
que ça pose des questions autant sur nos sociétés que sur les sociétés autrefois chamanistes.
Parce qu'on voit que l'origine, elle est russe, elle est sibérienne, et pourtant aujourd'hui on trouve des chamans absolument partout. Donc ils sont issus directement de cette racine que vous venez de nous décrire.
Le terme, oui. Ouais. Bon, mais ceci dit, ça désigne des réalités tout à fait différentes. Alors, c'est justement un challenge pour la recherche que d'essayer de comprendre d'abord le trajet qu'a fait ce terme, pourquoi on est arrivé à considérer les choses comme ça, pourquoi ça s'est répandu aujourd'hui jusque dans nos sociétés, pourquoi nous avons réinterprété ce terme. On a recherché dans le passé occidental des personnages qui pouvaient ressembler à ce pauvre chaman sibérien qui lui, il essaye d'avoir de la chance à la chasse, donc c'est tout. Et finalement, on a fait Jésus chaman, Socrate chaman, Merlin l'enchanteur chaman.
Ouais.
Enfin, si vous voulez, tout le monde est un peu chaman. Et je peux vous dire qu'il y a eu une thèse sur les rituels chamaniques de la communauté européenne de justice.
Ah oui, carrément.
Oui, en 2010.
Donc on met du chaman à toutes les sauces, finalement.
On met du chaman à toutes les sauces. Ouais. Vous pouvez trouver dans le journal, il a fait un grand geste chamanique, alors vous ne savez pas trop de quoi, à quoi ça ressemble, mais on met du chaman à toutes les sauces.
C'est-à-dire qu'on peut croiser des chamans à Paris aussi, par exemple?
Alors, vous savez, les gens peuvent se dire chaman, qu'est-ce qu'ils ont de chaman. On peut essayer de comprendre, enfin, de se demander, au moins de poser les questions, pourquoi ils utilisent ce terme. Alors, on peut voir plusieurs raisons tout de même. D'abord, la coïncidence avec le déclin des grandes religions. Il n'y a pas de dieu dans le chamanisme, il y a des esprits et l'idée c'est des esprits de la nature, du monde naturel surtout, et l'idée c'est quand même que le chaman peut arriver à obtenir quelque chose d'eux. Il n'est pas soumis à un dieu dont il doit faire la volonté. Donc il y a une position subversive sur le plan religieux. Il y a aussi une position écologiste très forte. Les Sibériens se prétendent les précurseurs de l'écologie d'une manière générale parce que finalement, étant des gens qui vivent de chasse, ils prennent soin de la forêt, ils ne détruisent pas les espèces qui y vivent parce qu'ils ont besoin que le gibier se reproduise. Et donc, ils ont aussi une très grande préoccupation des ressources de la planète et de leur préservation. Donc, ce côté retour à la nature et écologie. Ouais. Et puis, j'en verrai un troisième, qui est une question de responsabilité personnelle et de prise en charge tout à fait pragmatique de son propre destin. Ça va avec les deux autres, d'ailleurs. Mais je vais me débrouiller.
Alors justement, dans la pratique thérapeutique par exemple, il y avait ce documentaire d'Arte, Médecin d'ailleurs, avec Bernard Fontanil, qui s'est rendu dans le sud de la Sibérie, justement, dans la région de la Touva, pour parler justement du chamanisme.
Bouyan, bonjour.
Je m'appelle Soyan Bouyan, j'ai 22 ans. Je suis un chaman de l'organisation Tozder de la République de Touva, dans la ville de Kizil, en Sibérie. Les pierres aident à mieux masser, puisqu'elles sont plus dures que les doigts. Et elles peuvent atteindre les endroits qui sont inaccessibles aux doigts. Les peines et déceptions accumulées intensifient les flux d'acide. Je traite l'endroit sensible en dispersant les acides et ainsi je le guéris par le toucher.
Voilà, Roberta Maillon, on voit bien la pratique hein, thérapeutique est très importante aussi dans la culture des chamans. C'est quoi? C'est la connaissance au fond de la nature et des plantes qui fait la différence
hein? Non, ça je pense que c'est quelque chose de tout à fait circonstanciel, ça n'est pas très important. Ils essayent de... Enfin, tout est possible dans les chamanismes d'aujourd'hui, qui ne serait pas rené en Sibérie s'il n'y avait pas eu la fondation américaine pour les études chamaniques, Foundation for Shamanic Studies, créée par Michael Harner, qui est venu en Sibérie dès 1992 pour dire aux gens, on va vous réapprendre votre chamanisme.
Donc c'est ce qui se passe en Sibérie aujourd'hui?
Alors c'est ce qui s'est passé en Sibérie, parce que le chamanisme avait été tellement décrié sous l'Union soviétique,
ouais.
Il était montré comme sauvage, primitif, arriéré, tout ce que vous voulez, que ce n'était pas possible qu'ils renaissent tout seuls. Mais les Américains sont venus et ont nommé certains chamans qui restaient à l'époque, trésors vivants du chamanisme. Et donc, les gens se sont dit, on peut faire quelque chose avec ça. C'est un moyen de gagner sa vie en même temps. Mais il faut dire que beaucoup de leurs clients sont des clients étrangers, bon, ou des Russes. Qui viennent là, c'est quelquefois en désespoir de cause qu'on va là. Mais la clientèle locale est plutôt familiale. On va là-bas. Si on a besoin, disons, de régler une querelle conjugale, de trouver un mari...
Ah oui, c'est multifonction alors.
Ah, c'est multifonction. Hein. Si vous avez envie d'acheter une belle voiture, par exemple, vous n'avez pas d'argent, est-ce que vous allez réussir à...
Donc avoir le chaman pour ça.
Absolument. Ouais. À emprunter à la banque, etc. Parce que le chaman vous aide finalement à avoir de la chance. Et la chance, ça vaut pour tout. Ça vaut dans la santé comme dans le reste. Mais c'est pas du tout spécifiquement thérapeutique.
Voilà, les chamanismes, en tout cas, un terrain d'étude pour vous, Roberta Maillon. Et ce sera le cas donc dimanche à 11h30 au musée du Quai Branly, dans le cadre donc de ces deux journées. L'ethnologie va vous surprendre. Et dans un instant, nouvel exemple avec Jean-Baptiste Exay et les femmes d'Éthiopie.
Wonder I can think at all, and my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or throne. Thank you.
everything looks worse in black and white.
Kodachrome, Paul Simon à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Voilà, éclectisme des sujets sur l'ethnologie au quai Branly. Donc ce sera samedi et dimanche, deux jours pour explorer le 21e siècle. Anne-Christine Taylor, on parlait du chamanisme à l'instant avec Robert Tamayon. Vous en avez croisé en Amazonie des chamans. Hein. Il y en a beaucoup là-bas, beaucoup.
Beaucoup de pratiques aussi. Il y en a beaucoup, mais il se passe là-bas exactement la même chose qu'en Sibérie. C'est devenu maintenant une sorte de bazar multifonctionnel, si j'ose dire, et qui est utilisé autant par les populations métisses ou blanches touristes que par les populations locales.
Jean-Baptiste Exet, donc vous serez en conférence samedi et dimanche, hein, dans le cadre donc, de ces deux journées au Quai Branly, et dimanche en particulier à 13h30, alors autour de vos deux thèmes de recherche, à la fois donc sur les femmes murcies d'Éthiopie, et puis des migrants de Calais. Alors comment vous allez faire le lien entre les deux là? C'est le grand écart quand même. Hein.
Voilà, non là c'est juste parce que je vais moins parler des Murcies en tant que tels et des migrants en tant que tels que justement de ces nouvelles manières de produire de la connaissance anthropologique, notamment de la photographie. Mm-hmm. J'en fais beaucoup et en même temps, c'est vrai que d'un côté, les Murcies ont une culture visuelle avec une ornementation lourde et des systèmes de poèmes qui déclinent des noms. Du coup, c'est facile d'en faire des photos. Oui. De l'autre côté, les migrants vivaient dans la jungle de Calais, dans un lieu un peu exceptionnel et visuellement marquant. Du coup, c'était facile d'en faire des photos. Oui. Et mes photos d'un côté sont parfois appréciées, on les trouve belles, on les trouve ceci, cela, là, et moi, j'arrive pas à les concevoir comme une réelle apport anthropologique, et du coup, je vais essayer de présenter un peu plus une conférence à partir de doutes sur les représentations qu'on produit au contact de situations que sur des certitudes. Ouais.
Alors, c'est vrai que si vous interrogez les gens dans la rue pour demander qui sont les Murcies d'Éthiopie, personne quasiment ne va vous répondre. Or, si vous montrez une photo des femmes Murcies, tout le monde va savoir de quoi on parle quasiment.
Et on va dire, oh, les femmes à plateau.
C'est ça, c'est exactement. Les femmes à plateau. Ouais. Alors, ce fameux plateau, c'est le labret. C'est cet ornement donc, qu'on voit autour des lèvres extrêmement spectaculaire, évidemment, que portent ces femmes. Ça vous a intéressé d'étudier cet objet en particulier ?
Ça m'a intéressé dans la mesure où les Murcies m'intéressent, et c'est une des pratiques des Murcies, donc par définition, ça m'intéresse. Oui. Ça m'intéressait tout particulièrement parce qu'on n'a pas le choix, en fait, de s'y intéresser, parce que, évidemment, pour nous, c'est une pratique, enfin, pour nous, je pense, en tant que citoyen curieux de ce qui se passe ailleurs, c'est une pratique un peu exceptionnelle. Donc, on a toujours un avis sur la question, et les Murcies aussi, dans leur vie quotidienne, actuellement, sont soumis à tout un tas de contraintes et de pressions des gouvernements, des missionnaires.
Pour ne plus les buter?
Entre autres choses, entre autres pratiques qu'il faudrait stopper, il y a évidemment ce port de labret.
Pourquoi est-ce qu'on interdirait aujourd'hui le...
Là, il suffit d'aller se nourrir dans notre jugement spontané. À la fois, on peut trouver ça magnifique, la variété des pratiques humaines, et en même temps, on a du mal à pas voir ça comme étant douloureux. Ça l'est, mais du coup, c'est critiquable. Et du coup, on peut le rapprocher de pratiques type excision et parler de domination féminine et ces choses-là. Et en même temps, il y a un impact esthétique qui est vraiment une déformation du visage, au sens où ça change la forme. Du coup, ça, on a un peu de mal aussi avec ça. On le voit un peu comme le musée des horreurs, un peu. Donc, on a une fascination de pratiques qui seraient soi-disant ancestrales. Là aussi, c'est pas forcément. Et de l'autre côté, une sorte de répulsion pour justement ces pratiques qui n'entrent pas dans nos cadres du beau et de l'esthétique.
Alors, Jean-Baptiste Exet, on va écouter le reportage que Anne Pastor avait fait justement auprès des femmes Murcies en Éthiopie en 2014 pour France Inter. Et ce sera intéressant de pouvoir en discuter parce que dans ce reportage, il est montré que précisément ces femmes portent cet objet dans un cadre plutôt touristique. Alors vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec ça ou pas.
Hello. Hello. Combien d'heures par jour vous le portez, ce plateau, pour les touristes?
Je le porte en fait jusqu'à ce que les touristes repartent et après je m'enlève.
Les touristes sont contents en fait de venir ici parce qu'on est belle. Voilà. Et alors, si on n'a pas cette beauté-là, cette décoration-là, il ne vient pas.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois d'être une bête curieuse?
Ça fait un boulot. En fait, comme ce n'est pas la saison qu'on fasse la culture, là maintenant, quand il y a des touristes, je fais ce métier-là. Et alors, quand il pleut, je fais de l'agriculture. Et alors, je rentre en fait la moisson. Et après, je recommence. Est-ce qu'elle va nous prendre en photo, là maintenant?
Moi, je ne veux pas faire de photos, ça ne m'intéresse pas.
Et si vous ne prenez pas des photos, pourquoi vous êtes venu alors?
Pour essayer de découvrir votre culture.
Alors, j'ai passé beaucoup de temps avec vous.
Et maintenant, alors, il faut payer.
Voilà, reportage d'Anne Pastor en 2014 sur France Inter. Sujet que vous connaissez bien, Jean-Baptiste Exet. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce que c'est vraiment un objet, ce labret, qui fait partie de la vie ordinaire de ces femmes éthiopiennes ou au contraire, utilisé plutôt dans des circonstances telles qu'on vient de l'entendre?
Alors ça dépend évidemment de la définition qu'on a d'ordinaire, mais en tout cas c'est utilisé par les Moursiers eux-mêmes sans la présence des touristes. Il se trouve qu'ils ont très vite compris ce qui attire les touristes, ce qui marche, et donc c'est labret d'un côté, et évidemment les peintures corporelles et tout un tas d'ornements, qui souvent d'ailleurs sont plutôt des ornements de bovins que maintenant ils se mettent sur la tête, ils ont compris que c'est ça qui marche.
Ouais, Roberta Maillon, vous posiez une question tout à l'heure à Jean-Baptiste Exet.
Ça s'enlevait facilement.
Ouais, est-ce que ce plateau autour des lèvres s'enlève?
Oui, en fait, ça s'enlève facilement. C'est d'ailleurs assez spectaculaire. Et la plupart du temps, en fait, les femmes ne le portent pas. Du coup, elles le portent en des occasions spécifiques, précises. Mmh. Et une des premières conséquences de le porter, c'est d'abord, ça va agir sur le schéma corporel. Ça veut dire sur toutes les postures que le corps va prendre à la manière d'une femme ici en Occident qui va mettre un tailleur et des talons hauts. Ça ne va plus être la même manière de marcher, de se mouvoir, de parler. Et du coup, un peu notre posture dans la société, dans le monde, change un petit peu. Là, ça va être la même chose. Dès lors qu'une femme porte ce labret, elle est obligée de faire des petits pas, elle ne peut plus tourner la tête à droite, à gauche. C'est difficile de parler et évidemment, faire des injonctions un peu plus véhémentes à des gens, on ne peut pas. Et du coup, c'est valorisé comme une forme de solennité, de droiture et de. Voilà, la même chose qu'on aurait, nous, avec une veste qui nous empêche de faire des grands gestes.
Alors, dans quelles circonstances, justement, ces femmes sont amenées à porter ce labret et à partir de quel âge en fait est-ce qu'on commence à le porter?
Alors ça commence à se porter environ à la puberté parce qu'il faut rapprocher donc le port du labret de l'ensemble des pratiques de scarification que les Moursiers font, qui là sont assez aussi grandes et amples. Et souvent, les scarifications sont réalisées en conséquence ou en anticipation d'un sang qui va être subi, d'un sang issu du corps qui va être subi. Ça peut être une blessure, ça peut être une maladie, en conséquence de quoi on va réagir en faisant des scarifications, comme si on reprenait un peu l'initiative du sang qui coule. Ce n'est pas qu'une chose qu'on subit, c'est une chose qu'on maîtrise aussi. Et évidemment, les échéances inévitables de la physiologie féminine vont aussi entrer en compte là. Du coup, une scarification ventrale inévitable à l'époque des premières menstruations et le percement de la lèvre labiale, qui renvoie à l'image donc de l'entrée dans la vie sexuelle et évidemment des saignements consécutifs
donc
avec l'enfantement, etc.
On porte ce plateau à ce moment-là, on le garde combien de temps alors
on peut commencer à le mettre, parce qu'évidemment il faut aussi un temps... Au début, c'est juste un morceau de bois qui va être, et donc la lèvre va être étendue. Évidemment, il y a des femmes qui ne le supportent pas, il y a des femmes qui vont avoir des labrés qui vont rester petits, d'autres, la lèvre se brise et n'en porteront jamais plus. Et voilà, donc c'est à partir de ce moment-là que ça peut se porter. Évidemment, ça ne va se porter que dans les moments cérémoniels ou lorsque, par exemple, une épouse sert à son mari en présence d'un invité, là où il faut paraître un peu, comment dire, chic, noble,
absolument,
peu importe le terme.
Avec cet ornement, donc.
Avec cet ornement.
En l'occurrence, oui. Donc on voit toute la douleur, quand même, de porter cet objet, et qui est aussi un objet de domination masculine, clairement, ou pas?
Alors ça, je me suis pas posé la question. C'est évident que ça peut faire partie de ce registre-là. Ce qui est très compliqué de le penser en ces termes-là, c'est évidemment quand on voit le niveau d'acceptation et de valorisation des femmes eux-mêmes, en fait, qui veulent le porter et qui veulent pas qu'on leur enlève. Du coup, c'est très très difficile à penser. Est-ce que c'est notre jugement qu'on déporte sur elles? Ouais. Est-ce que c'est juste quoi? Elles sont pas conscientes qu'elles se font dominer et on aimerait qu'elles s'en sortent? Ou est-ce qu'il faudrait accepter ça? Là, je dois vous avouer que ça a pas été mes sujets de recherche principaux et je suis un peu démuni pour y répondre.
En tous les cas, vous en discuterez samedi et dimanche, hein, à deux occasions donc pour ces deux journées au musée du Quai Branly. L'ethnologie va vous surprendre. Tout le détail du programme est sur quaibranly.fr, Anne-Christine Taylor. Hein, pour ceux qui souhaitent vous rejoindre, c'est entièrement gratuit. Il y aura des sujets très éclectiques. On parlera par exemple quand les morts secouent nos habitudes, par exemple, avec Vincent Després qui était venu dans l'émission en discuter. Voilà, donc le plus simple, c'est de regarder le programme quaibranly.fr samedi et dimanche pour faire mieux connaissance avec l'ethnologie. Merci infiniment à tous les trois. On aimerait vous entendre beaucoup plus longtemps. On consacrera d'autres émissions à vos sujets à l'avenir. Merci beaucoup.